place, chers auditeurs de cette émission mensuelle de la Libre Pensée. À laquelle les animateurs de Article 25 prêtent cette plage. Bonjour. Sont au micro Claudette Coudeville, Michel Garin et moi, Michel Cadouche. Henri Huil, ayant été retenu, vous a enregistré l'intervention qu'il devait faire sur la question de l'abbé Pierre. Bon, tout d'abord, je mentionnerai que cette émission se tient dans un contexte général de guerre sur tous les continents. Et aujourd'hui, on voit l'intervention d'Israël au Liban, en Iran. Il y a déjà eu 1000 morts civils au Liban. Je laisse à tous les idées qui peuvent se faire là-dessus. Et je rappellerai simplement que la libre pensée est pour un cessez-le-feu immédiat. Elle se félicite aussi d'avoir participé au rassemblement du mouvement de la paix du 21 septembre. Nous avons aussi en France une crise démocratique et institutionnelle majeure. Je vous renvoie aux déclarations de la libre pensée sur ces sujets. Bien, c'est un coup de tonnerre qui vient de secouer l'Église catholique. Les révélations sur le comportement de l'abbé Pierre et l'attitude que l'Église a adoptée par rapport à cela. Donc, nous allons passer l'intervention qu'Henri a enregistrée. Michel, s'il te plaît.
Bonjour à toutes et toutes, à ceux qui nous entendent et on peut l'espérer, qui nous écoutent. Je souhaite parler aujourd'hui en effet de la saga en quelque sorte de l'abbé Pierre. Alors les médias ont beaucoup parlé de l'abbé Pierre ces derniers jours et d'ailleurs des agressions sexuelles qu'il a commises. C'était une des personnalités préférées des Français. C'est un titre attribué à une personnalité ou pas d'ailleurs française, suite à un sondage réalisé auprès de 1000 personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement est fait chaque année à partir d'une liste sélectionnée d'avance, au préalable, il faut dire, par le journal du dimanche. Et donc, ainsi, avec cette méthode, l'abbé Pierre a été nommé 16 fois personnalité préférée des Français, dont 8 fois consécutivement. Vu la méthode du sondage, nul besoin d'intervention divine pour arriver à ce résultat. Quoi qu'il en soit, cette année, 2024, après la vague de recours au prud'homme et de grève des employés d'Emmaüs, victimes de surexploitation, de précarité et d'humiliation au sein des communautés Emmaüs, c'est un sujet que nous avons traité dans une précédente émission, je crois en juillet ou en juin, si j'ai bonne mémoire, c'est la figure du prêtre Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs et personnalité préférée des médias, en fait, qui s'effondre dans la boue des agresseurs sexuels, de ceux qui profitent de leur notoriété et de leur autorité hiérarchique ou morale pour abuser de leurs victimes. Signalons en passant l'absolue indignité des hypocrites qui minimisent l'affaire sur le mode suivant « oui, c'est triste, c'est bien regrettable ». Mais il ne faut pas oublier qu'il a fait tellement de bien. C'était une figure emblématique de la charité chrétienne. Il incarnait la bienfaisance. Quelle horreur. La hiérarchie catholique en France savait. Le Vatican savait depuis au moins la fin des années 1950, c'est-à-dire depuis 65 ans. Donc, de son propre aveu, le pape François, autre personnalité préférée des médias, savait au moins depuis 2007, d'après lui, après la mort de l'abbé Pierre, c'est sûr, mais avant je ne sais pas. Donc il est mort en 2007, ça fait un petit moment maintenant, 8 ans, 19 ans. Ils ont couvert, ils ont pratiqué la loi du silence, l'omerta des mafieux. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une exception. C'est leur pratique constante, systématique. Le 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIASE, constituée par l'Église catholique elle-même, par la conférence des évêques, qui était menacée d'être noyée, étouffée par le scandale, remet son rapport. 330 000 enfants et adolescentes étaient victimes des abus et des viols du fait de prêtres catholiques. De très nombreux cas sont connus de prêtres violeurs dont les crimes ne sont pas dénoncés par leur hiérarchie. Ils sont déplacés de diocèse en diocèse, parfois de pays en pays et même de continent en continent, et qui recommençaient dans leur nouvelle paroisse. Ainsi, par exemple, le cardinal Barbarin, alors primat des Gaules, c'est un titre honorifique, en quelque sorte le premier des évêques en France, est possible papabilé, c'est-à-dire qu'il aurait pu être élu pape avant cette affaire, déclaré en mars 2016 face à la révélation des actes de pédophilie au sein de l'Église, dans laquelle se trouvent impliqués des prêtres de son diocèse, protégés par leur institution. Grâce à Dieu, c'est prescrit. Faut-il passer cela sous silence? Faut-il couvrir le crime du voile de l'oubli? Faut-il faire semblant de croire que cette fois-ci, c'est sûr, l'Église va tirer les leçons du drame et lever l'omerta? Selon François Deveau, fondateur de l'association La Parole Libérée, qui est une association de victimes des crimes sexuels dans l'Église, il dit, on est vraiment dans le double langage. On est très très loin de la tolérance zéro qui est prônée. Il faut savoir que le pape a refusé de rencontrer la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la fameuse CIASE, présidée par Jean-Marc Sauvé, qui a révélé que de 200 000 à 300 000 victimes étaient encore en vie en France. Ça suppose plusieurs millions de victimes à travers le monde. C'est l'enquête la plus aboutie qui a été faite à travers le monde. Si l'Église n'avait plus peur de la transparence, ce n'est pas sur l'abbé Pierre seul qu'elle ouvrirait les archives, c'est sur tous les faits d'agression sexuelle. La Commission Sauvé a recensé des milliers d'auteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a un symbole et des victimes qui prennent la parole qu'il faut nettoyer ça et faire pseudo-œuvre de transparence. Il y a un vrai travail de fond à engager. Dit donc ce monsieur Deveau. La libre pensée, quant à elle, pose la question. Faut-il cacher tout cela ou faut-il le dire? Faut-il s'agenouiller devant les vaches sacrées ou avons-nous raison de dénoncer les crimes sexuels commis par les religions? Si vous pensez, et là en l'occurrence la religion catholique, si vous pensez comme nous, rejoignez la libre pensée pour lui donner plus de force et de notoriété.
Très bien. Merci Michel de nous avoir passé cet enregistrement. Je souhaiterais que tu nous passes une chanson appropriée. Je pense que tu as une chanson de Jacques Brel.
Oui, alors la chanson que l'on va diffuser maintenant s'appelle Les Bigotes. Alors, Les Bigotes, c'est une chanson qui est issue d'un 33 tours qui est sorti en 1963, un 33 tours de Jacques Brel. Alors, je rappelle quand même Jacques Brel, qui était un peu Jacques Brel, hein, j'ai dit, parce que, bien sûr, moi, je connais Jacques Brel. Hein, ceux de mon âge connaissent Jacques Brel. Ceux de, qui ont maintenant, je dirais pas mes petits-enfants, oui, mes petits-enfants, quoi, et ben, eux, est-ce qu'ils savent qui était Jacques Brel? Je suis pas sûr. Mais Jacques Brel, c'est un chanteur quand même qui a fait beaucoup de chansons, énormément de chansons, de très belles chansons. Beaucoup étaient anti-religieuses, d'ailleurs. Hein, celle-là en fait partie. Et c'est un chanteur belge qui était né en 1929, en Belgique bien sûr, et qui est mort en 1978. Voilà, je vais vous passer maintenant cette chanson qui est, comme je vous l'ai dit, est une chanson anti-religieuse. Ça, vous allez le voir, il n'y a pas de problème. Elle est issue, en plus de ça, d'une scène d'une
fusion sur scène. Elle vieillit, saute à petits pas, de petits chiens aux petits chats, les bigotes. Elle vieillisse d'autant plus vite qu'elle confonde l'amour et l'eau bénite comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable, en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu, en les voyant prier, je crois que je perdrai la foi par les bigotes. Elles processionnent à petits pas de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtu de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures, elles s'embigotent les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigotes. Le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigotes. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes, qui préfèrent se ratatiner de vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre leurs fesses, les bigotes. Puis elles meurent à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes, qui cimetièrent à petits pas, au petit jour d'un petit froid, de bigotes. Dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux boudelles, et elles s'en à petits pas de bigotes.
Oui, cet abbé Pierre a soulevé le problème des personnes qui dorment dans la rue. C'est en 1954 que le fondateur d'Emmaüs a exprimé une indignation pour la mort d'un SDF, largement relayée dans les médias. Aujourd'hui, les problèmes du logement, les médias en parlent encore abondamment. Michel, s'il te plaît, peux-tu nous en parler ?
Oui. Alors, on l'a entendu tout à l'heure dans l'intervention d'Henri, et il vous a bien expliqué qu'on essayait de pardonner à l'abbé Pierre parce qu'il avait fait beaucoup de choses du bien, quoi, je dirais, tout simplement. Et ce bien, il a été fait plus particulièrement, je dirais, dans sa fondation. Alors, il faut savoir que la fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés a été créée en 1987. Et elle a été reconnue donc d'utilité publique le 11 février 1992. Alors cette fondation, à la différence des communautés Emmaüs, cette organisation fait directement appel à la générosité du public pour financer ses actions contre le mal logement. La fondation Abbé Pierre est membre d'Emmaüs International. Alors bien entendu, on s'est posé la question. Il y a les mal logés, il y a les mendiants, il y a la misère dans la rue, et on s'est posé la question, mais qu'en était-il exactement, et d'une part au niveau national et d'une part au niveau de Marseille, puisque bien entendu nous sommes à Marseille et nous ne sommes pas épargnés également par le mal logement. Alors je me suis inspiré un peu au départ bien entendu d'un rapport, hein, puisqu'il faut savoir que là, on ne peut pas le nier, le rapport sur le mal logement, c'est quand même la Fondation Abbé Pierre qui, de ce côté-là, fait des rapports qui sont assez précis et assez instructifs. Alors, le terme de mal logement, il a été créé en 1993, donc 95, par la Fondation Abbé Pierre, pour rendre compte des difficultés de logement auxquelles étaient confrontées les personnes défavorisées. Il n'était alors pas imaginable que le phénomène prendrait l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, année après année. Le mal-logement s'est diversifié dans ses formes et ses manifestations et touche des catégories de personnes de plus en plus larges. Il ne renvoie plus seulement aux toutes les personnes sans domicile ou vivant dans les logements inconfortables, comme c'était le cas dans les années 1950. Même si ces situations sont malheureusement toujours présentes, d'autres problématiques sont apparues au cours des dernières années, sous l'effet de la flambée des coûts du logement et de la précarisation des ressources des ménages, chômage, temps partiel subi, CDD, intérim, etc. Dans ce contexte, de plus en plus de ménages, y compris parmi les couches intermédiaires et les classes moyennes, sont en difficulté pour accéder à un logement. pour s'imiter le dire, ou pour en changer au cours de leur vie. Alors la Fondation Abbé Pierre se base sur, on dit, sur les cinq dimensions aujourd'hui constitutives du mal logement. Ces cinq dimensions sont l'absence de logement personnel, les difficultés d'accès au logement, de mauvaises conditions d'habitat, les difficultés de maintien dans le logement et le blocage de la mobilité résidentielle et l'assignation à résidence. Alors bien entendu, cette année, comme les autres années, la Fondation Abbé Pierre a dressé un nouvel état des lieux du mal logement en France. La Fondation déclare également que la bombe sociale du logement est en train d'exploser sous nos yeux et s'inquiète de l'accélération de la crise du logement. Et on peut le voir tous les jours, d'ailleurs, dans nos journaux. Alors, les chiffres du mal logement. La Fondation Abbé Pierre évolue à 4,2 millions de nombres de personnes en situation de mal logement, personnes privées de logement ou vivant dans des conditions de logement très difficiles. Outre ces situations les plus graves, 12,1 millions de personnes seraient fragilisées par rapport au logement. Copropriété en difficulté, impayés de loyer ou charges, surpeuplement modéré, froid pour des raisons liées à la précarité énergétique, situation des forces financières. On verra tout à l'heure pourquoi ces trucs sont appliqués, je dirais pas plus particulièrement, mais en grande partie à Marseille est touchée par ces problèmes-là. Alors, le rapport de la Fondation Abbé Pierre précise que la demande de logement social est 4 à 5 fois supérieure à l'offre disponible annuellement et que les ménages sont confrontés à une diminution de l'offre locative privée. Alors, on le voit que, bien entendu, que c'est vraiment un gros problème. En parallèle, par contre, le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté atteint des niveaux records, 9,1 millions en 2021. Et les Restos du Cœur peinent à répondre à toutes les demandes. À Marseille, le taux de pauvreté est de 25,1%. La pauvreté se concentre dans les arrondissements du nord et du centre de la ville. Dans les 1er, 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements, le taux de pauvreté sont supérieurs à 39%. Alors Marseille, bien sûr, Marseille a également sa crise de l'habitat indigne. Alors, à partir d'où ça a commencé ? On pourrait dire que le vrai problème a commencé, quand je dis le vrai problème, excusez-moi, mais c'est plutôt qu'il est apparu à l'occasion de certains drames, d'un drame surtout. Le 5 novembre 2018, deux immeubles dégradés du centre-ville s'effondrent sur leurs habitants à deux pas du Vieux-Port, faisant 8 victimes. Sous la pression, la ville impose l'évacuation urgente de milliers d'habitants d'immeubles en péril. 1300 personnes évacuées en 15 jours. 1245 ménages, près de 3000 personnes évacuées en un an, près de 5000 évacuées hors de 600 immeubles, c'est-à-dire 600 immeubles ont été évacués 2 ans plus tard. Alors l'un des deux immeubles, alors le pire c'est que là-dedans, l'un des deux immeubles effondrés appartenait depuis des années à la ville à travers sa société Marseille Habitat, soulignant l'inertie municipale. L'autre immeuble effondré appartenait à des propriétaires privés, dont un élu local, rappelant le lien historique entretenu entre le monde politique marseillais et celui des investisseurs fonciers et immobiliers. Alors on va voir pourquoi, plus tard, on fait ce lien. La dégradation des immeubles du centre marseillais était connue, documentée de longue date. Plusieurs rapports avaient alerté sur la gravité de la situation du logement indigne à Marseille. Cette crise majeure cristallise toujours depuis lors. Les enjeux structurels de la pauvreté, des inégalités et de la gouvernance à Marseille, à travers la question du logement. Les élections de 2020 n'ont pas reconduit la majorité municipale en place depuis 1995. Cette crise, donc, éclate dans une ville déficitaire de logements sociaux, avec de très fortes carences en centre-ville, l'essentiel des HLM étant concentré dans les quartiers nord. Malgré des taux de pauvreté exceptionnels dans le centre, les stratégies municipales marseillaises en matière de logement n'y ont priorisé ni la réhabilitation des immeubles délabrés, ni le logement très social. Au contraire, dans un projet néolibéral d'attractivité et de montée en gamme, la ville a choisi délibérément de favoriser le développement d'une offre résidentielle périphérique dite de qualité, destinée aux classes moyennes, vers le littoral sud et en urbanisant les franges de nature proches des collines qui encadrent la ville. Le dualisme urbain marseillais s'est renforcé. L'étalement s'accompagne d'une fragmentation de l'espace et de replis sociaux, car l'essentiel de ces périphéries résidentielles pour classe moyenne se cloisonne en résidences fermées et rues barrées au public, qui traduisent un entre-soi social particulièrement marqué. Marseille est l'une des seules villes françaises à avoir gardé un centre populaire entre le Vieux-Port et la gare. la gentrification ou embourgeoisement est amorcée par endroits. Et c'est beaucoup accéléré depuis la crise du Covid. Suite aux effondrements de 2018, les modalités brutales des premières évacuations et mises à l'abri d'habitants par la mairie inquiètent sur de possibles évictions durables des populations modestes hors du centre. Comment est-on arrivé à une situation pareille dans une métropole française au point que l'État y intervienne directement en urgence et sur le long terme et prenne l'initiative d'un plan de réaménagement du centre? Le discours officiel a longtemps évoqué les conséquences d'un long déclin portuaire et socio-économique depuis les années 70. Mais les études convergent pour montrer que cette crise s'inscrit dans la dérive d'une fabrique urbaine privée très peu qu'à planifier et réguler, où les intérêts financiers, fonciers et immobiliers, les arrangements informels, le laisser-faire et enfin les logiques néolibérales se sont étroitement combinés. L'instruction du drame de la rue d'Aubagne apporte des précisions claires. Ce sont des pratiques d'urbanisation de rente qui ont abouti simultanément à l'abandon des immeubles anciens privés du centre, la ville qui s'effondre, pauvreté, mal logement, et à l'essor périphérique de la ville qui se ferme, résidences et rues barricadées. Le mal logement persistant est corrélé à ces taux de pauvreté urbain très élevés du centre ancien et des quartiers nord avec des problèmes de fond structurels bien connus et depuis très longtemps de tous les observateurs. Forte inégalité sociale et pauvreté de masse. 26% à Marseille, 200 000 personnes. Ce taux de pauvreté marseillais est très supérieur à celui de la métropole, qui en a 18%. Il dépasse 40% par endroit et atteint jusqu'à 75% dans des secteurs très denses du centre-ville, 1er et 3e, autant que dans certains quartiers nord, 14e, 15e arrondissement et certaines parties du 13e. Il est corrélé, bien entendu, à un taux de chômage élevé de 17,7%. L'originalité de Marseille par rapport à l'Île-de-France est que ses quartiers populaires sont à l'intérieur des limites communales. Depuis le début des années 60, cette concentration de la pauvreté du centre-nord au nord-ouest de la ville est liée à la stratégie d'implantation des logements les plus sociaux dans ces quartiers proches du port et de ses industries, stratégie sous-tendue par des logiques électorales et clientélistes. Le logement social continue encore et toujours à y être concentré. Plusieurs grandes copropriétés périphériques, très dégraciées et investies par des marchands de sommeil, y abritent aussi les plus défavorisés et sans droit. Beaucoup de propriétaires d'immeubles locatifs vétustes de Manouaille et du Vieux-Port ou de la Belle de Mai résident eux-mêmes dans des beaux quartiers sud de la ville. Le triangle Vieux-Port, Joliette, Gare Saint-Charles continue à jouer une fonction de transit et de logement des habitants précaires dans un habitat dégradé. Les locataires pauvres y payent des loyers élevés au mètre carré qui les poussent à s'entasser dans un parc de logements majoritairement privés, souvent peu entretenus et potentiellement indignes. Les revenus sont d'autant plus garantis qu'une part des loyers perçus est cofinancée par des allocations publiques, les administrations ayant longtemps fermé les yeux sur le piteux état du bâti. Quel changement se dessine à travers les mobilisations sociales et les enseignements de la gouvernance issue de cette crise? Quel renouvellement se profile pour le centre et pour ses habitations modestes? Alors, malgré l'ampleur de la pauvreté et des besoins, la mise en location des logements sociaux est insignifiante en centre-ville. Sur une période étudiée de 25 ans, les rares logements très sociaux construits restent concentrés dans les quartiers nord. Le centre nord populaire, arrondissement 1, 2, 3, très actif et commerçant, reste très déficitaire en habitat social familial malgré les besoins. Des initiatives rares et dispersées de préemption d'immeubles délabrés par la ville, menées au coup par coup, ont été freinées par d'interminables procédures judiciaires avec certains propriétaires. Et parmi les rares immeubles rachetés par la ville au motif de créer des logements sociaux, plusieurs n'ont ensuite pas été rénovés. Sont restés des hôtels meublés sans travaux d'amélioration, ont été maintenus vacants et ou se sont dégradés, comme le numéro 63 rue d'Aubagne qui a fini par s'effondrer. Comme beaucoup de villes en crise post-industrielle, avec un projet de montée en gamme, mais sans investissement dans des équipements structurants, la municipalité de Marseille a d'autres priorités. Elle a misé sur ses périphéries et son littoral en les ouvrant à l'urbanisation et en s'y vendant ses terrains et son patrimoine. Depuis 1995, les options néolibérales ont été assumées dans les argumentaires de délibération et la communication municipale. rentabiliser le foncier qui est supposé financer la fabrique urbaine, activer le potentiel des quartiers déjà attractifs, littoraux, encourager le secteur immobilier locatif touristique et les centres commerciaux au moyen de quelques partenariats publics-privés phares. Cela suppose mécaniquement un glissement des populations insolvables hors des espaces rentables. Divers projets, comme celui de la rue de la République, artère haussmannienne reliant le Vieux-Port et le port de croisière de la Joliette, ont déjà été conduits. Il y a 10 ans, à l'éviction d'une partie de locataires modestes d'immeubles privés anciens appartenant à des fonds financiers délogés lors d'une vaste opération spéculative. En 15 ans, il y a eu des transformations du peuplement. La consolidation d'un dualisme entre les quartiers du littoral sud et ceux du centre et du nord, avec des taux de pauvreté souvent supérieurs à 40%, atteignant l'endement plus de 70%, taux comparables à ceux de villes d'Afrique subsaharienne, la mort d'une gentrification transforme le centre ancien et les nouvelles aires résidentielles aisées de l'Estac, Sainte-Marthe, Château-Gombert et ses environs, au nord et à l'est, grignotées sur les espaces naturels périphériques. Elle dépasse un peu la pauvreté, qui reste intense. En 25 ans, pendant que les immeubles du centre-ville populaire ne cessent de se dégrader et que la production de logements sociaux stagne, la ville a choisi l'étalement en ouvrant des espaces naturels à la promotion immobilière, en créant des zones d'aménagement concertées, ZAC, résidentielles, et même en vendant des terrains municipaux, anciens stades, anciens jardins publics, aux investisseurs. En 25 ans, le sud, l'est et toutes les périphéries se sont ainsi transformés dans un contexte spéculation foncière généralisée en un assemblage disparate de copropriétés et d'enclaves de moins en moins accessibles et traversantes majoritairement, enclos et sécurisés, avec des rues fermées d'accès réservé tournant le dos aux quartiers populaires. La logique néolibérale d'appui au secteur immobilier privé est revendiquée et justifiée par un argumentaire récurrent d'attractivité et de rentabilité que l'on retrouve dans les PV de conseils municipaux ou d'enquêtes publiques. Les nouvelles zones résidentielles pour classe moyenne supérieure s'étalent toujours davantage vers le littoral sud, les Calanques, les communes, puis le secteur d'Euroméditerranée. C'est là que Marseille se repeuple depuis 1999. D'abord par les remaniements des plans locaux d'urbanisme, des PLU, et par une série de ZAC d'habitat qui servent de noyau pour les opérations plus vastes. Les terrains communaux vendus ont été convertis en ensembles résidentiels de qualité, conçus, fermés et sécurité. Le but revendiqué étant l'attractivité résidentielle pour classe moyenne propriétaire, ces ensembles sont rarement dotés d'une infime proportion de logements sociaux locatifs intermédiaires. Cette ville est conçue pour des majors de l'immobilier encouragés par la municipalité qui y voit là un développement de faibles coûts publics dans un contexte de spéculation foncière généralisée. Depuis 1993, les 2/3 de ces programmes immobiliers sont conçus, fermés et sécurisés, chacun doté de ses propres espaces communs, privés, parkings, voiries, jardins. Les quartiers du sud et de l'est se sont transformés en mosaïque de nouvelles résidences clôturées et sous l'effet de la fermeture des rues de lotissements anciens voulues par les associations de copropriétaires. Démarrée en début des années 90, cette diffusion des enclosures n'a quasiment pas été réglée. Des marges et des enclaves se construisent dès qu'on s'éloigne du centre historique. On voit ainsi apparaître des formes de fragmentation locale au sein de zones qui étaient populaires. Par exemple, dans les quartiers nord, avec de nouvelles résidences, dotées de jardins, encloses et sécurisées juste à côté de copropriétés dégradées ou d'ensembles HLM très appauvris aux espaces publics minimalistes. La fermeture devient un outil de valorisation immobilière des espaces les mieux situés, vu environnement, empiétant parfois sur des projets de parcs publics. En plus de la ségrégation classiquement observée, la multiplication des ensembles résidentiels fermés vient alors créer des enclaves d'habitat de qualité pour classe moyenne au sein de zones défavorisées, aiguisant des tensions sans régler les problèmes de fond. Alors ces logiques dessinent en guise de ville des classes moyennes un assemblage hétéroclite de copropriétés fermées et sécurisées, d'enclaves économiques de moins en moins accessibles et traversantes pour les piétons. Depuis 25 ans, les politiques publiques ont massivement laissé faire, entériné ou même provoqué ce fort retrait de l'entre-soi résidentiel et la gestion privative des espaces. des arrangements avec la ville, puis la métropole maintient néanmoins les services de ramassage des ordures ménagères, de l'éclairage public ou du courrier parcelle à l'intérieur de ces enceintes. C'est-à-dire que ces enceintes sont bien desservies, mais par contre, à l'extérieur, ça, c'est à voir. Ces fonctions, donc ces quartiers, ces îlots, je dirais, fonctionnent de plus en plus sous forme d'archipel, en déconnectant géographiquement et socialement du centre historique populaire et de ses rues animées. La ville y perd de plus en plus de cohérence. Suite à la crise des évacuations, le nouveau projet partenarial d'aménagement, PPA, nouveau dispositif de l'Orléans, s'est mis en place avec différents acteurs publics, métropole, ville et privés, mais sans prévoir initialement la place des habitants. Le besoin de concertation est placé au centre des revendications de collectifs militants qui entendent renouveler les modes d'action pour donner directement la parole aux ménages. Alors tous ont construit un mouvement interassociatif qui a monté en expertise face à des opérateurs et aux collectivités sur le thème du mal logement. Ceci au moment même où le centre de Marais commence à se transformer socialement, les membres de ces collectifs participent de ce changement social du centre ancien. Comme dans la plupart des villes à ce stade de gentrification, ce sont des associations qui tentent de s'opposer à l'éviction des plus pauvres hors du centre en valorisant son caractère populaire. Les actions collectives organisées par une poignée d'associations soumettent les pouvoirs publics à une pression constante, tandis que la base collective prenne en charge l'assistance matérielle, morale, juridique, psychologique à l'attention des ménages les plus précaires qui échappent aux dispositifs officiels. Ces dernières années ont été traversées par les enjeux liés aux élections, comme on a pu le constater. Il y a plus ou moins convergence de ces listes associatives se traduisent par leur soutien apporté à une liste pluraliste de gauche aux élections municipales de 2020 et qui place la question du logement en bonne position dans son programme, comme grande cause municipale. De son côté, la liste sortante avec la métropole, le LR avec la métropole, soucieux de ne pas froisser les maires des petites communes sous-dotées en logements sociaux, a commencé par décider du gel des PLH préparé depuis quelques années, qui était supposé garantir le respect des quotas de logements SRU. L'accessibilité au logement pour tous à l'échelle de la métropole et rééquilibrer la géographie du logement social entre communes avant de soutenir la fronde des petites communes riches et carencées au logement social dans la remise en cause de la loi SRU. Alors, il faut savoir qu'entre fin 2019 et 2023, le bilan des évacuations hors des immeubles en péril du centre-ville, déplacements et rentes, défini, n'a pu être actualisé de manière indépendante. C'est-à-dire que depuis ce temps-là, on n'a pas de chiffres sur les évacuations dans le centre-ville, faute de transparence des données publiques, suite à la rupture du dialogue entre l'association et collectif et municipalité et chercheurs. Donc, dans cette période-là, on n'a plus de chiffres concernant les évacuations. Après l'été 2020, une série de rencontres et d'ateliers de travail ont été organisés par la nouvelle municipalité en présence des services de l'État, mais entre mars 2021 et décembre 2023, à nouveau, aucune donnée publique précise et exploitable n'a permis d'estimer les évolutions autrement que de manière empirique et artisanale. Donc, pour leur part, la métropole et le département, qui détiennent l'essentiel des compétences en matière de lutte contre le logement indigne et pour la production de logements sociaux, y compris à Marseille, n'ont participé à aucune rencontre ni dévoilé aucune de leurs orientations précises concernant l'adoption d'un PLH ambition ou les modifications du PLUI qui permettraient de garantir davantage et une meilleure répartition des logements sociaux entre communes et autres quartiers. La question de pauvreté, d'inégalité, de mal logement, de solidarité urbaine semble encore peu transparente et peu consensuelle au moment où la présidente de la République annonce un plan intitulé « Marseille en grand ». Une enveloppe de 650 millions d'euros a été débloquée par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, ANRU, en mars 2022. S'y ajoutent 14 millions d'euros par an sur 8 ans mobilisés par l'Agence nationale. À la manœuvre depuis 2020, donc, le SPLA in Aix-Marseille-Provence, a annoncé les deux premières vagues de réhabilitation d'une trentaine d'immeubles dégradés du centre-ville. Mais ces projets représentent une goutte d'eau face à l'ampleur du mal-logement dans la cité phocéenne. En 2015, le rapport Nicole recensait la présence de 40 000 taudis à Marseille, soit 100 000 personnes concernées sur 860 000 habitants. Face à la complexité des rénovations dans le cadre des copropriétés dégradées, un plan d'urgence a été annoncé et plus globalement, des évolutions législatives étaient attendues. Des réformes mises entre parenthèses depuis la dissolution. voilà ce que la poursuite de, bien sûr que la poursuite de ces projets dont l'urgence n'est contestée par personne reste suspendue au choix du nouvel exécutif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'avance toujours pas malgré tout ça. Voilà, j'espère ne pas vous avoir trop barbé sur ce truc. Mais voilà pourquoi il était essentiel quand même de parler de ça. Parce que bien entendu, l'Abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre sort ses chiffres, mais il faut savoir que ce sont de nombreuses associations dans beaucoup de quartiers, dans des grandes cités, dans des cités qui ont des mauvaises réputations. Personnellement, j'étais à une soirée cette semaine à La Castellane, qui est une cité qui a une mauvaise réputation, et je peux vous dire que les associations dans ce quartier, qui sont, si je ne me trompe pas, pour un quartier de plus de 25 associations, qui sont pour beaucoup des associations qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas actives, hein, qui ont touché des subventions, alors mystère comment elles ont touché, mais il y a des associations qui sont très actives, et je peux vous dire que dans ces associations, qui la plupart du temps sont des associations tenues par des femmes, elles sont vraiment actives et elles méritent tout notre respect. Voilà.
Merci Michel. Bon, est-ce que tu as un intermède musical approprié pour peut penser à la chanson Ma maison dans la prairie de Ma maison, pardon, près de la fontaine là, de Nino Ferrer, peut-être?
Chanson de Nino Ferrer, La maison de près de la fontaine, hein, qui se prête bien à ce que je viens de parler, hein, le logement et les immeubles. Cette chanson est une chanson extraordinaire puisqu'elle parle du contexte. Et je n'irai pas plus loin pour vous parler parce que je pense que j'ai déjà bien suffisamment parlé. Je vous envoie la chanson qui sera quand même plus instructive que moi peut-être.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. La guerre était dure. Ce n'est pas si mal. Et c'est normal. C'est le progrès.
Voilà. Et donc, nous allons aborder un autre sujet, mais chacun pourra faire le lien avec ce que nous a décrit Michel. Disons que, depuis 1959, une politique de promotion de l'enseignement privé au travers de la loi Debré se poursuit en France au détriment de l'enseignement public. Cette politique se traduit, entre autres, dans notre département, par le versement de millions d'euros au privé et d'une politique agressive de subventions d'investissement qui se compte, elle aussi, en millions. Tandis que, ce qui concerne l'école publique, agonise. Claudette va nous faire le point donc, sur les soutiens financiers et politiques qui sont apportés à l'enseignement privé dans notre département. D'ailleurs, pour parler de Marseille, tout le monde voit que dans ce quartier qu'on appelle Euroméditerranée, il y a un scandale. Il n'y a que le collège catholique en construction dans ce quartier qui pour ce quartier. Et cela commence à être connu. Bon, Claudette, s'il te plaît, où en est-on ?
Alors, sur cette question du financement public de l'enseignement privé, je vais remonter un petit peu en arrière quand même, pas très très loin, je vous rassure, en janvier dernier. Vous vous rappelez qu'en janvier dernier, nous avons eu le plaisir, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de voir nommer une nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Oudéa Castéra, qui d'ailleurs dans l'histoire de la Ve République sera certainement la ministre qui aura duré le moins longtemps, qui par ses déclarations de promotion de l'enseignement privé et de dénigrement de l'école publique, a fait exploser tout un dispositif qui avait été mis en place depuis des décennies et qui visait à taire et faire taire à propos du financement public de l'enseignement privé, qui visait à légitimer ces financements, notamment en présentant ces établissements comme du service public d'éducation, qui taisait leur caractère propre, confessionnel pour 98%, et et dont les écoles étaient catholiques à 96% et qui taisaient bien évidemment leur mode de fonctionnement. Dans les manifestations qui ont suivi, forcément, suite à ces déclarations, on a vu réapparaître le mot d'ordre du mouvement laïque, fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée. Et un regroupement des organisations laïques s'est réamorcé. Alors pendant des décennies, l'enseignement privé a bénéficié de milliards qui lui ont été versés par l'État, par les collectivités locales en vertu de la loi Debré, mais aussi en vertu de lois votées année après année pour toujours plus de financement aux écoles privées, telles que les lois Carl ou la loi sur l'obligation scolaire à 3 ans des enfants, pour ne nommer que les plus récentes. Une politique tendant à promouvoir l'enseignement privé dont on vantait l'excellence, le classement annuel des établissements n'avait pas d'autre fonction, tandis qu'à l'image des propos d'Oudéa Castéra, l'école publique, pourtant victime d'une politique de casse, de démantèlement, était accusée de tous les maux. Suite aux levées de boucliers, donc, une série de rapports qui étaient cachés par le gouvernement sont apparus. Rapport de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des services de l'éducation nationale, qui ont montré une politique complaisante autour du fonctionnement de ces établissements et une quasi-absence d'inspection. Le rapport de la Cour des comptes s'alarmait même du manque de clarté dans la signature des contrats d'association, qui en fait sont les contrats qui conditionnent pourtant le financement de ces établissements, au point que des académies étaient incapables de retrouver certains de ces contrats. le rapport des députés Paul Vannier, LFI, et Christophe Weisberg, Renaissance, suite à une mission parlementaire, rendait 2 mois plus tard un rapport accablant, dénonçant un système opaque, des mécanismes de sous-estimation de cette dépense publique, ne permettant pas de définir avec exactitude le montant réel des aides versées à ces établissements. Notamment, les montants versés par les collectivités locales s'avéraient difficiles à mesurer. Ce rapport épinglait, parmi d'autres, le département des Bouches-du-Rhône, qui alloue des sommes importantes pour, je cite, « la réalisation d'équipements sportifs dans les collèges du territoire », collèges évidemment privés, dont 170 000 euros pour les collèges privés de la Cordère en 2023. Entre 2018 et 2023, des subventions facultatives qui avaient augmenté de 30% selon la volonté de la présidente du conseil départemental. Ce rapport indiquait des difficultés encore, les mêmes difficultés pour le conseil régional, qui lui, rappelons-le, finance les lycées privés. Alors, il y a quelques années, la Libre Pensée des Bouches-du-Rhône avait réalisé un état des lieux des financements versés dans les collèges et plusieurs localités du département. Mais même sous-évalué du fait de la difficulté de recenser ces financements, ces montants s'avéraient astronomiques et se montaient à plusieurs dizaines de millions. Au plan national, la Libre Pensée édite chaque année, à partir des données fournies par l'Éducation nationale, le budget prévu par le ministère en matière de financement de l'État à l'enseignement privé. Pour cette année 2024, il a été prévu 9 milliards 35 millions d'euros pour le financement de l'enseignement privé des premiers et seconds degrés, soit une progression de 6,70% par rapport à la loi de finances initiale de 2023. Cette augmentation est à comparer aux 4,58% que l'enseignement public se verra d'augmentation que l'enseignement public se verra attribuer, ou aux 5,40% pour l'enseignement public du second degré. À ce montant, il faudra ajouter, quand ils sont reconnus, ceux des collectivités locales, plus les autres administrations. À titre indicatif, en 2021, les versements par l'État à l'enseignement privé, tous niveaux confondus, avaient été de 8,8 milliards. En y ajoutant les collectivités et les autres administrations, ce sont 15,06 milliards qui ont été versés pour ces établissements pour les établissements sous contrat et hors contrat. Et ce, sans compter la taxe d'apprentissage et les déductions fiscales offertes aux particuliers et aux entreprises faisant des dons aux écoles privées. Les établissements scolaires catholiques sont les principaux bénéficiaires de l'ensemble des financements directs et indirects. Au plan départemental, nous avons débuté un nouveau recensement des subventions versées par les collectivités locales. Et nous avons commencé par le conseil départemental chargé des collèges du département. Pour l'année 2024, le conseil départemental a voté à l'unanimité des présents ou représentés, moi une absence de vote, la somme de 17 147 746 euros. C'est-à-dire 7 961 000 pour la part matérielle, ce qui représente une augmentation de 7,75% par rapport à 2023. L'État, de ce point de vue, est battu. 9 185 749 seront versés pour la part personnelle, non enseignant, soit une augmentation de 7,9% par rapport à 2023. En 7 ans, cette subvention de fonctionnement a augmenté pour la part matérielle de 52,83% et pour la part personnelle de 41,32%. Et ce n'est malheureusement pas fini. Comme l'indiquait le rapport des députés Vannier et Weisberg, le département vote des subventions d'investissement à tour de bras. Subventions qui, on le comprend bien, viennent enrichir le patrimoine des établissements privés. Ces subventions n'ont aucun caractère obligatoire et relèvent donc entièrement de la politique menée par le conseil départemental et soutenue par les élus de ce conseil qui, nous l'avons vu, votent allègrement à l'unanimité. Pour 2024, les subventions que nous avons recensées, c'est donc les subventions d'investissement, et l'année n'est pas finie, se montent à 2 199 000 euros. Depuis 2017, elles ont progressé de 78%. Parmi ces investissements, l'un d'entre eux a retenu toute notre attention. Il s'agit du collège en cours de construction Loyola. Ce collège se construit en lieu et place d'un collège public qui était prévu à son emplacement, à l'emplacement où il se construit actuellement. Et c'est l'ensemble des collectivités locales, des représentants et des représentantes de l'État, auxquels il faut ajouter l'Académie d'Aix-Marseille, qui en ont décidé ainsi. Pour ce collège, le Conseil départemental a voté une subvention en s'arrangeant avec la loi de 1 950 000 euros. Il me semble que ce collège est vraiment le symbole de cette volonté de favoriser le privé au détriment de l'enseignement public. En plus des subventions citées plus haut, le conseil départemental subventionne le numérique dans le cadre de son plan Charlemagne. Il subventionne aussi les transports pour activités pédagogiques à l'extérieur, les activités éducatives, les PAM, l'aide aux tenues et bien d'autres choses encore. En conclusion, parce que nous n'avons pas toute la journée, nous arrivons à un total provisoire de 19 346 938 pour la seule année 2024, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas terminée, et qui vient s'ajouter aux autres millions versés les années précédentes. Qui pourrait penser que ceci n'a pas d'incidence sur les conditions faites à l'enseignement public ? Une des conséquences de cette politique de promotion du privé est qu'en 7 ans, le nombre de collèges privés est passé de 51 en 2017 à 54 en 2024, sans compter le collège Loyola qui sera terminé en 2025. Nous en serons donc à 55 collèges privés. Pour une augmentation de ces effectifs de 1284 élèves. Mais dans le même temps, les collèges publics sont passés de 136 à 137, pour une augmentation de 6552 élèves. Cherchez l'erreur. On ne peut pas utiliser d'un côté l'argent public pour les établissements privés et construire suffisamment de collèges. Alors, au lieu de construire des établissements à taille humaine, on rénove par-ci, ou alors, quand ce n'est pas possible, on reconstruit des établissements, mais des établissements bien plus grands. Ainsi, si je me souviens bien, des collèges qui à l'heure actuelle sont en reconstruction ou en rénovation pourront passer de 480 qu'ils sont aujourd'hui à plus de 750 quand ils auront fini d'être construits. C'est sans doute pour le bien-être des élèves. On pourrait parler aussi de ces établissements qui ne sortent pas de terre ou ceux qui attendent le réparateur d'ascenseur, de la photocopieuse et dans d'autres choses encore. Mais ça nous prendrait bien évidemment le reste de la journée et sans doute une partie de la nuit. Nous allons nous arrêter ici pour cette fois. Vous pourrez retrouver la totalité de cette première étude dans notre journal L'Impertinent que vous pouvez vous procurer auprès des adhérents de la Libre Pensée ou en le commandant sur notre site www.lp-13.org. Prochainement, nous éditerons sur les subventions versées par la région aux lycées privés du département et celles versées par les municipalités aux écoles privées. Alors, pour sauver l'école publique, ne faut-il pas en finir avec les financements publics de l'enseignement privé ? C'est le sens du plan de sortie qu'a proposé la Libre Pensée pour une abrogation effective de la loi Debré. Je vous remercie.
Merci Claudette. Donc tu viens de mentionner L'Impertinent, qui est la revue de notre fédération départementale. Je voudrais aussi ajouter une autre revue qui s'appelle La Raison, qui est la revue nationale, dans le numéro de ce mois-ci, du mois de septembre. Vous avez, par exemple, une page de philosophie, une morale pour l'insensé, éthique pour un monde sans Dieu, Dieu au pluriel. Voilà. Dans le numéro précédent, il y avait un excellent article, un dossier sur le sionisme. Il existe aussi la revue de l'IRELP qui s'appelle L'Idée Libre, qui, dans le dernier numéro, est consacré au blues, sachant que le blues est intimement lié à l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Voilà, donc, merci Claudette, Michel. Merci Claudette, Michel. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la Fédération des Bouches-du-Rhône de la Libre-Pensée, www.lp-13.org. Merci aussi à Radio Galère, à Daniel et Lucien d'Article 25. Au revoir et au mois prochain, premier mercredi du mois de novembre, donc le 6, de 14h à 15h, comme habituellement. Merci, au revoir.
Avant de couper là, complètement, je signale, Claudette, je suis malheureux d'annoncer qu'on t'a coupé, quoi. Ta chanson, nous n'avons pas pu la poser. Je suis au regret. Mais bon, c'est comme ça. Enfin, dommage. Notre ami Michel a oublié de te donner la présentation de cette chanson. Maintenant, avant de finir complètement, je tiens à faire connaître quand même qu'à Vitrolles, il va y avoir une conférence. C'est plus exactement une présentation de livres à la médiathèque de Vitrolles. Ça va se passer le 29 octobre à 19h à l'auditorium de la Passerelle à Vitrolles. Et la présentation de l'ouvrage de Michel Bitton, qui est 1871, la commune de Marseille, du drapeau rouge au bagne calédonien. Voilà. Alors, chers auditeurs, cette fois-ci, on vous lâche et on vous laisse tranquille. On dit au revoir.